Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène du théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré. Et oui, je suis un obstiné à un festival fantôme, celui d'Avignon. Vous savez qu'il a été annulé, mais nous, on veut continuer à s'y rendre, ne serait-ce qu'en pensée et dans le passé. Alors je vous propose aujourd'hui, grâce au DVD et à la VOD, de revivre quelques-unes des plus grandes créations du Festival d'Avignon, le Mabarata, l'opéra équestre de Bartabas, la trilogie de la villégiature Richard III, version Ostermeyer, Mademoiselle Julie avec Juliette Binoche, enfin la danse du diable de l'enfant d'Avignon, Philippe Cobert, et avec autour de moi, je suis ravi aujourd'hui, Fabienne Pascot de Télérama, Armelitar Melelio du Figaroscope, Gilles Costaz de Politis et Vincent Joss de France Inter, familier lui aussi, si j'ose dire, des ateliers fantômes. Oui. Et donc, il est très bien là aujourd'hui pour parler de ce festival d'Avignon. Dans le courrier de la semaine, et là, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez, beaucoup de messages reçus dans la boîte du masque après la remise sans public ni paillettes des Molières. C'était le 23 juin dernier sur France 2. Camille Verdier de Maison Alfort a été ravie de voir couronner avec 3 statuettes la mouche d'après Georges Langlane, mise en scène par Valérie Le Sor et le génial Christian Heck, avec Christine Murillo, mouche qu'elle était allée voir au Bouffe du Nord grâce à l'enthousiasme à l'époque du Masque et la Plume et qu'elle avait trouvé burlesque et kafkaïen, et elle voudrait revoir la pièce, Camille Verdier, mais nous demande-t-elle, une reprise est-elle annoncée? Je ne sais pas si l'un de vous a une réponse à cette question.
Oui, il y a une reprise.
Ah, alors.
Je ne saurais pas donner la date, mais Christian Heck,
mais je crois à partir de janvier 21. Ils sont
très
en tournée.
Bien. Cécile, en revanche, n'a pas aimé une histoire d'amour qui a valu à Alexis Michalik, le Molière, de la mise en scène d'un spectacle de théâtre privé. Merci et bravo à Fabienne Darge, nous écrit Cécile, pour sa critique d'une histoire d'amour de Michalik, seul commentaire objectif. Au masque et la plume.
Moi, j'avais aimé.
Sur ce metteur, justement, c'est ce qu'elle dit. Sur ce metteur en scène que Cécile juge sans style et sans tripes. Il est incroyablement surapprécié. Tant mieux pour lui. Mais pitié, laissons s'exprimer les rares courageux qui y voient clair dans son non-jeu. Bis à vous tous et bravo au masque pour sa superbe continuité pendant la crise. C'est vrai que le masque ne s'est pas arrêté. Vous en savez quelque chose les uns et les autres. Je partage le bonheur que nous exprime Isabelle Talloire de Massy de voir récompenser avec un Molière de la comédienne dans un second rôle la toujours magnifique Dominique Blanc d'Angel Cinamérica, la comédie française. En fait, ce n'est pas un second rôle hein, qu'elle tient dans cette pièce, mais au moins, une demi-douzaine de rôles. Jacques Cernin de Paris applaudit aux trois Molières, remis à Simon Abkarian pour Electre des Bas-Fonds, et trouve que le Masque et la Plume ne l'a pas salué en son temps comme il le méritait. C'est ce qui me semble, là,
On
l'a pas négligé.
Oui.
Enfin, François et Jeanne Midonnet de Paris ont cherché en vain dans les masques théâtre du début d'année nos avis sur deux spectacles couronnés aux Molières. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty de Éric Bue et Élodie Menant au Petit Montparnasse, Molière du spectacle musical, et le seul en scène d'Alex Lutz qui lui a valu le Molière de l'humour. C'est vrai qu'on ne peut pas parler au masque de tous les spectacles. Est-ce que vous aviez vu ces deux-là, Armel?
Ah oui, le Alex Lutz, c'est exceptionnel.
Mais il l'a créé il y a longtemps, c'est curieux qu'on lui donne le Molière cette année.
Il tourne, mais il est fou. Bon, il est magnifique.
C'est le cheval qui était bien, surtout.
Exceptionnel.
Luce, t'as magnifique cavalier. Je trouve quand même que ces textes n'étaient pas à la hauteur.
Il est formidable.
Bon.
Et la petite qui joue Arletty, c'est marrant aussi, mais c'est du petit spectacle modeste.
Oui, Arletty, c'est un joli spectacle qui continuera à tourner, je pense.
Est-ce qu'on peut dire un peu de mal des Molières ou ce serait vraiment pas gentil?
On peut dire ce qu'on veut au Masque et la Plume, Vincent.
C'était une cérémonie assez pathétique.
C'était un peu triste, hein.
C'était triste.
Un théâtre vide. Quelle idée.
Seules les équipes nommées étaient là, alors, à distance, évidemment. Ils n'avaient pas le droit, les comédiens qui recevaient un Molière, ou les comédiennes, de dire merci.
Si, ils pouvaient dire merci de leur fauteuil.
À peine. Il paraît qu'ils ont été très mal reçus. On leur a dit à peine bonjour. Bon, ça, c'est le off. Mais ça gênait beaucoup de voir une cérémonie pas très bien préparée, sans aucun morceau de spectacle. On n'a pas vu de quoi on parlait. Est-ce qu'il fallait les tenir, ces Molières, cette année?
C'est un peu comme le Masque et la Plume Théâtre pendant le confinement. Je pense que toutes les occasions, même si moi j'ai vu aussi la soirée, qu'elle n'était pas brillantissime.
Non, loin
de
là.
En même temps, toutes les occasions de pouvoir saluer,
exactement,
honorer, rappeler que le spectacle vivant n'est pas mort.
Oui, mais c'était un peu la fête est finie et on n'a pas envie de voir ça.
La fête va recommencer.
Justement, Dominique Blanc, elle prie, on ne comprend pas que c'est pour une dizaine de rôles dans Angels in America.
Non, mais rien n'était clair. Hein,
voilà, cette soirée. C'est le problème.
Bon, enfin, c'était les Molières, mais en tout cas, vous voyez, nos auditeurs y ont été sensibles puisqu'ils ont tous beaucoup réagi. Et encore, je n'ai pas tout lu le courrier. Et on commence avec un monument, ou presque, le Mahabharata, monté en 1985 par Peter Brook dans la carrière de Boulbon. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, c'est environ à 15 km du Palais des Papes. C'est un lieu magique. Spectacle dont le DVD, concentré sur 3 heures, est édité par Wildside, car le spectacle, dans mon souvenir, durait au moins, quand il était rassemblé, au moins 8 ou 9 heures. Il était, vous le savez, basé sur l'épopée indienne du Mahabharata, ce livre sacré considéré comme le plus grand poème jamais composé, riche de 200 000 vers, et qui relate la grande geste des Bharata et la guerre à la fin du premier millénaire avant l'ère chrétienne, que n'a pas connu Vincent Josse, entre deux branches d'une famille royale, les Pandava et leurs cousins, les Kaurava. Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne en avaient signé l'adaptation. Le Mahabharata disait à l'époque, très justement, je trouve, Peter Brook, c'est la Bible et Shakespeare réunis. Juste une petite précision, on a revu ce Mahabharata en 2014, au Festival d'Avignon, mais dans une version nippone, qui avait formidablement...
D'une heure et demie, à peu près, très courte.
Une heure et demie qu'avait monté Satoshi Miyagi. C'était visuellement magnifique. Absolument magnifique. Bref, revenons pour nos auditeurs en 1985, ça fait un bail. Est-ce que vous avez un souvenir, les uns ou les autres, peut-être, de ce... Vincent, il était encore en train de faire des tas de sable dans les jardins publics.
Mais j'ai pas vu, malheureusement.
Moi, j'ai un souvenir très clair.
Oui.
Comme on nous avait annoncé un spectacle très très long, c'était 2 ans avant Le Soulier de Satin, c'était en 85.
Dont on a parlé il y a 15 jours.
On ne connaissait pas la carrière Boulbon.
C'était la première
fois. C'était la première fois, c'était pour Peter Brook.
Qu'il avait choisi en se promenant.
C'est lui qui l'avait choisi, il en avait visité plein et il avait trouvé celle-là qui avait été extrêmement bien installée. Et moi, je me souviens qu'on pensait qu'on aurait faim pendant la nuit, que ça serait compliqué. Donc, moi, je me souviens que je suis arrivée avec un coup faim et à manger pour 10 personnes. Et en fait, on était tellement subjugués que personne n'a eu faim. On a eu peut-être un peu soif, on a bu de l'eau. Mais c'est tout, je suis repartie au petit matin avec mon coup faim. Personne n'y avait touché. Et on découvrait vraiment un monument. Parce qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas. On s'était intéressé au Mahabharata juste un peu avant. Parce qu'on savait que c'était au programme. Et je dois dire que c'est Bernard Fèvre d'Arcier qui l'avait programmé. C'est venu la première année de Krombeck. Mais c'est une décision de Bernard Fèvre d'Arcier. C'était magique.
Gilles, est-ce que
moi, mon souvenir est un peu différent. C'est-à-dire que cette année-là, on avait le droit d'y aller en bateau par le Rhône.
Comment
moi,
ça, la carrière Boulbon en bateau?
Oui. Je m'étais pas posé la question du sens du courant. Et donc, j'avais pris, retenu l'aller et le retour. Sauf que, au retour, c'était à contre-courant. Et que ça mettait des heures pour retourner à Avignon. Je me souviens que j'étais couché très, très tard parce que le bateau n'arrivait pas au quai. Mais ça reste justement un souvenir formidable. Et dans ce film qui est très beau, qui permet de revoir des comédiens qui ont disparu, comme Brice Bénichaud, Brice Meyers, il manque quand même la carrière. Parce que c'est un film qui a été tourné en studio. Et donc, il manque la Provence, la carrière, ces roches.
Oui, un plan,
énormes,
voit un mur tout d'un coup.
Qui habillait si bien ce très beau spectacle.
C'est quand même Luc Chansky qui avait fait l'image.
Fabienne.
Oui, le film, soyons clairs, le film n'est pas à la hauteur de l'émotion qu'a suggéré le spectacle, où était tout à coup résumé tout l'art de Peter Brook, de nous faire voyager avec des détails de rien, de réinventer sur scène cette épopée où il y a des guerres invraisemblables, où il y a de la magie, où il y a du fantastique, où il y a du burlesque, du tragique, et avec des petits détails, toujours. C'est son art de créer un paysage féerique avec un bout de bois sur le plateau, une petite flamme, de nous faire croire que des montagnes avancent, que 20 000 soldats sont en train de se battre de part et d'autre. Je me souviens que dans la carrière de Bourbon, on était beaucoup les victimes des moustiques, mais on se grattait même plus, on était assez fascinés par ce qu'on découvrait sur scène, et surtout cet art. Et puis alors, c'était en 85, la magie de Peter Brook, c'est aussi de convoquer sur scène des comédiens du monde entier qui parlaient plusieurs langues, des Noirs, des Asiatiques, il y avait tout ça, c'était prodigieux, ce condensé d'humanité qu'on voyait tout à coup. Et on sentait une immense fraternité qui emportait par-delà aussi la magie du théâtre. Donc c'était humainement une expérience formidable.
C'est pour
formidable.
Ça aussi que la version japonaise avait un sens, c'est qu'elle était universelle comme était à l'origine ce spectacle. Alors Vincent, non, là je le dis sérieusement, trop jeune évidemment.
Oui, j'avais une vingtaine d'années, je n'avais pas encore un avion.
Donc toi, tu as une version, si j'ose dire, vraiment totalement VOD ou DVD de ce spectacle.
Et ben, on ne peut pas m'envier parce que la version DVD qui date de la fin 89 donc a pris mais je sais pas, un siècle, on n'imagine pas du tout ce que c'était ce spectacle sur le plateau.
Non,
Fabienne le disait,
DVD,
on ne voit pas du tout la grandeur de la carrière, l'émotion que vous avez pu éprouver, l'un en prenant le bateau à contre-courant, l'autre, Armel, en prenant son petit panier à pique-nique.
Et Fabienne en ignorant les moustiques.
En combattant courageusement et en devenant zen. Et le film, effectivement, tu as cité Brooke qui a toujours dit que c'était une grande bande dessinée indienne entre la Bible et Shakespeare. Et là, on voit un mauvais film des années 50, les cow-boys contre les Indiens. Donc j'ai tenu sur les 5h, 5h30, 1h30, et après j'ai regardé en accéléré. Mais je ne peux pas conseiller aux auditeurs de faire comme moi, c'est-à-dire de découvrir le Mahabharata par ce film. Mmh. Il y a sans doute mille et un autres moyens d'être enthousiasmé par le Mahabharata.
Mais déjà peut-être en lisant le texte. Qu'on avait tiré Jean-Claude Carrière, qui doit encore se trouver, ça donne une dimension.
Oui.
Et puis dans mon souvenir, il y avait quand même une version qui a disparu des écrans, si j'ose dire, mais qui était beaucoup plus longue. En anglais.
C'est Mahabharata.
La troupe anglaise avait
malgré
joué
tout,
elle existe aussi sur YouTube.
De Peter Brook, vous le trouvez chez Wildside. 6 ans plus tard, on est donc en 1991. Dans cette même carrière de Bourbon, Bartabas, au temps lointain et heureux, où tous ses spectacles, je dis bien tous ses spectacles, étaient créés au Festival d'Avignon, présentait son opéra équestre. Et c'est disponible aujourd'hui chez MK2 Vidéo. Je vous en dirai plus après parce qu'il y a toute une série consacrée à Bartabas cet été. Opéra équestre où se défiaient deux tribus de cavaliers et de chanteurs. L'une d'influence berbère, l'autre d'influence caucasienne, marquait vraiment d'une pierre blanche la fin des trois cabarets équestres et annonçait ce qu'allaient être les grands spectacles de Zingaro, Chimère, Eclipse, Triptyque, etc. Un spectacle, c'est vrai, qui m'émeut particulièrement parce que, d'abord, c'est l'âge d'or de la relation amoureuse entre Bartabas et son iconique frison Zingaro, avec des scènes, mais presque à pleurer, et parce que c'est l'époque où il montait beaucoup dans ses spectacles. Il ne faisait pas que mettre en scène, et dans celui-ci, il effectue à la fin son légendaire galop arrière. Je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas encore vu. Je précise à nos auditeurs que Opéra équestre sera diffusé gratuitement en ligne cette semaine du 18 au 24 juillet. Tous nos auditeurs peuvent donc y avoir accès sur le site troiscouleursattachées.fr. Il fait partie du programme Bartabas vous invite au théâtre Zingaro avec MK2 qui permet de diffuser chaque semaine de l'été en ligne et gratuitement la captation d'un spectacle donc de Zingaro. Bon, ce spectacle, moi je le connais par cœur, je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce que vous en avez... Fabienne, tiens.
Bien déjà dire qu'il est très très joliment filmé par Jacques Malaterre.
Alors celui-là, il faut le, je parle encore un peu, mais après je me tais. Mais c'est donc dans la carrière de Bourbon, et ce qu'on ne voyait pas dans le Mahabharata, on le voit là.
Exactement.
C'est-à-dire ce lieu magique.
Et on le voit bien, on le voit en haut, on le voit du haut, on le voit partout.
Il est très très bien filmé.
Et Jacques Malaterre a vraiment su qu'il a travaillé en connivence avec Bartabas, en grande amitié avec la troupe, a magnifiquement su saisir tout ça. Évidemment, on est parce que comme vous le disiez, c'est une charnière dans l'œuvre de Zingaro. Mais moi, surtout, ce qui me bouleverse, c'est vraiment la quête de Bartabas. Là, c'est quand il commence à s'interroger sur son goût du nomadisme, qu'il essaye d'aller explorer toutes les cultures qui ont eu affaire avec le cheval, avec le nomadisme, là, les Berbères, les Géorgiens. Et c'est ce travail qu'il noue, lui, le saltimbanque, pour aller au fond de son amour du cheval à qui il s'est tout faire faire. On se demande, quand on voit Opéra Équestre, il va pas réussir à les faire chanter aussi, les chevaux, à un moment. Et donc, c'est cette parfaite maîtrise. Il a changé quand on le revoit, là. Maintenant, il est beaucoup plus mince.
Ah bah, il avait ses roues flaquettes.
Il était plus gros.
Il continue.
Il était plus jeune et plus...
Ça fait partie de sa ça fait partie de sa quête un peu ascétique.
Surtout, il y a ces scènes où il se jetait sur les spectateurs absolument affolés.
Exactement, affolés. Donc, c'est le jeune Bartabas, Bartex, et ça, c'est assez émouvant. Et en même temps, cette joute entre les hommes et les femmes qu'il imagine, les femmes berbères, les géorgiens, ça prend du sens à l'heure de MeToo. Et c'est aussi, c'est une intuition qu'a Bartabas de faire rivaliser hommes et femmes. Et c'est très, très drôle et c'est bien fait. Voilà.
Vincent.
Moi, je découvre avec le DVD ce spectacle. J'étais pas à Avignon en 91, je vous raconte ma vie, encore, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est intéressant aussi de voir comment un spectacle vieillit et comment...
Vincent était un bébé. Le problème, c'est qu'il est, il est bébé depuis 50 ans, donc à un moment donné, il va quand même vieillir.
Ne fais pas ton Jacques Nerson, Jérôme Garcin. Donc, c'est arrivé en 93, donc c'est deux ans avant. Et j'ai été, c'est curieux parce que j'ai regardé ça sur mon canapé, tu vois, chez moi, et j'ai été plein d'énergie. Grâce à ce que j'ai vu, à cet opéra. C'est vraiment une forme d'opéra. Et puis, tu as parlé de ces hommes, de ces femmes, de peuples différents qui se rencontrent, qui vont batailler. Ce sont des battles, hein, comme on dit aujourd'hui, puis qui vont s'unir. Il y a une sexualité, je veux dire. Il y a quelque
sensualité,
chose. Oui, sensualité très forte, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du sexe qu'on voit pas souvent sur une scène, dans la façon de se séduire, dans la façon d'être le meilleur, etc. Et puis, on voit de peuples qui apprennent à se connaître. Je trouve qu'il y a une certaine portée politique aussi dans ce qu'il dit. Il nous dit un peu ce qu'écrivait Saint-Exupéry, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. J'ai senti ça très fort, moi, dans ces peuples qui se rencontrent et qui finissent par s'apprécier. Et Bartabas, que je ne connaissais pas autant comédien, il joue beaucoup sur son cheval, il prend des mines.
Il en fait trop, parfois.
Il joue le féroce.
Il est un peu cabot. Après, tu disais qu'il devenait un ascète.
Il rit comme un cheval.
Il a changé sa façon d'être au public après, donc c'était intéressant de voir comment il était dans cette grande époque et ses grands débuts de Zingaro.
C'est le passage des cabarets où il était encore plus circassien. Si je veux dire, c'est vraiment le début de ces spectacles qui vont aller vers les purs, vers la presque une épure asiatique.
Mais il y a des oies quand même au début.
Il y a des oies au début,
absolument.
Mais en tout cas, son énergie et celle de ses cavaliers, tout ça est extrêmement communicatif et contagieux. Donc il faut regarder ça.
Et ces musiques du monde qui vont revenir chaque fois différemment dans chaque spectacle. Armelle.
Oui, ben vous tous les trois, vous avez extrêmement bien parlé de ce spectacle qui est formidable, qui est radieux. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir la pensée de Bartabas, parce que là il est encore du côté du cirque Aligre quasiment, il rigole, il fait ses grandes dents devant les chevaux, il joue avec les chevaux, il y a Zingaro, mais il y a aussi ce petit cheval que j'adorais qui s'appelle Félix, qu'il avait trouvé en Italie et dont il parle dans le livre qui est paru cette année d'ailleurs.
Il faut rappeler que d'un cheval l'autre chez Gallimard,
il faut lire ce livre en même temps, qui est tout, extraordinaire,
qui est son histoire à travers tous les chevaux qu'il a aimé monter.
Et on le voit là, et
n'a pas oublié.
On sait qu'en fait, son grand modèle, dès ce moment-là, ça va être Pina Bausch, et qu'il va s'émacier physiquement lui, il va trouver une spiritualité encore plus profonde, encore plus consubstantielle, il va comprendre les chevaux jusqu'à ces moments où maintenant, les chevaux sont tout seuls et qu'ils s'effacent complètement. C'est absolument extraordinaire, le chemin artistique de Monsieur Martex Bartabas. C'est magnifique.
Et puis, on voit l'usage qui est fait, qu'on ne peut pas voir chez Peter Brook dans le film, l'usage qui est fait de ce lieu, Carrière
formidable.
De Bourbon, où d'ailleurs, il va donner d'autres, Bartabas ensuite, de ses
spectacles. Les levées du soleil et tout ça.
Gilles.
Oui, là, je suis vraiment d'accord. Je suis assez de l'avis de Fabienne. C'est un spectacle féministe. Enfin, c'est vraiment, il aime vraiment ces femmes qui défie les hommes. Et lui aussi est assez féminin, je trouve, Bartabas, dans certaines attitudes, ce qu'il n'a pas toujours fait, parce qu'il était quand même aussi un grand machiste, c'est tonitruant. Et là, il est dans le jeu. C'est vrai que par moments, il joue l'escogriffe affreux, mais que c'est très drôle.
Mais
qu'il a des moments de grâce quasi féminine qui sont étonnants. Ah ouais, oui, c'est... D'ailleurs, de ce que on nous avait demandé de regarder, Jérôme Garcin, je crois que c'est vraiment le plus beau de ce qu'on a pu voir pour cette émission.
Et encore une fois, le mieux réalisé.
Opéra Équestre, c'est donc chez MK2 Vidéo. Et j'ajoute à tout ce que je vous disais que tous les vendredis à 20h, il y a une séance spéciale, toujours sur troiscouleurs.fr, avec la captation présentée par Bartabas et suivie du documentaire de la création du spectacle. Donc c'est vraiment un été disponible en ligne, gratuit et en même temps très souvent, je dis bien, avignonnais. On passe les années et nous voici en 2002 au cloître des Carmes. pour la trilogie de la villégiature de Goldoni dans la traduction de Félicien Marceau. Mise en scène par Jean-Louis Benoît et disponible désormais chez Arte Vidéo, une farce écrite en 1761 qui raconte les péripéties, les déboires d'une petite communauté s'apprêtant à partir en vacances. C'est quelques années avant la Révolution française. Le portrait railleur, il faut dire, de bourgeois italiens étriqués qui passent leur temps un peu comme Vincent Josse, en jeu, en commérage, avant de rentrer ruinés, comme Vincent aussi, se calfeutrer chez eux à l'approche du froid, avec notamment Jean-Claude Barbier, Ninon Bretéché, David Gouillet, Catherine Rétoré, Jean-Marie Frein, il y en a beaucoup d'autres. Et je rappelle aux oublieux qu'en 78, à l'Odéon, pour une mise en scène presque historique, Strehler, qui était le directeur du Piccolo Teatro de Milan, avait dirigé les comédiens français dans une trilogie de la villégiature et cette même traduction de Félicien Marceau. Gilles.
C'est un spectacle d'une grande exubérance, une grande richesse de jeu, de couleurs. Il y a un problème sur le tempo, je trouve, parce que on a vu aussi la mise en scène d'Alain Françon à la Comédie française, il n'y a pas
plus
très
récemment,
longtemps.
Hein.
Et c'est vrai que Strehler et Alain Françon ont eu le sens et aussi la possibilité de respecter le temps. Et parce que c'est donc trois moments. Est-ce qu'on part à la villégiature? On vit la villégiature et on revient à la villégiature. Si on les joue à toute vitesse, comme le fait Jean-Louis Benoît, ça va trop vite. Et c'est le problème du spectacle, ça court tout le temps. Alors moi j'adore quand les gens courent sur une scène, comme on peut le voir avec Bartabas et d'autres.
Ça se ralentit un peu dans la deuxième partie quand même.
Ouais, mais enfin dans l'ensemble, il y a un rythme fou. On a l'impression qu'il te dit, je vais pas arriver à tout jouer, et il faut tout jouer. Donc les acteurs qui sont très bons, j'aime beaucoup Ninon Bretéché, j'aime beaucoup Catherine Rétoré, mais je trouve que le tag va trop vite. En revanche, on entend très très bien cette pièce qui est pas toujours, qui est rejouée rarement parce qu'elle est très longue et qui est de toute façon une très belle pièce.
La version de Françon qu'on avait vue là, je sais plus quel mois c'était, à la Comédie française,
à la cabane,
était longue, hein, était assez longue.
Oui,
plus longue. Elle était plus tchékovienne. Moi, j'ai trouvé que c'était épouvantable, ce spectacle.
Oui. Fabienne, laquelle? Celle de Françon?
D'ailleurs, à l'époque, on ne l'avait pas aimée.
Celle de Benoît?
Ah oui.
Pourquoi?
Je ne l'avais pas vue à Avignon. Je l'ai donc découverte en DVD, parce que c'est du mauvais au théâtre ce soir, avec des comédiens qui gueulent, mal dirigés.
C'est un peu excessif, Fabienne.
Non, il n'y a aucune finesse dans l'interprétation. La villégiature, on l'avait vue évidemment par Strehler. Moi, j'ai moins aimé Françon, mais il y a un côté fin d'un monde. L'ancien monde s'éteint. Ça va être, comme vous le disiez, la Révolution française bientôt et toutes ses conséquences. Là, cette bourgeoisie qui court après elle-même mais qui, à la fin, revient un peu ruinée. Les amoureux n'ont pas épousé ceux qui voulaient. Donc, ça se termine mal. Ça se termine... Et là il caracole.
Ici, oui,
pardon.
Tout ce qu'on voit pas
ici. On voit rien, là. On voit rien. Alors que c'est une pièce un peu visionnaire dans ce qu'elle raconte de l'Europe à ce moment précis. Et là, bon, c'est monté le décor d'Alain Chambon et hideux. Ils ont réussi à défigurer le cloître des Carmes.
Non, c'était pas le cas quand on a vu le spectacle.
Oh, ben là, cette vilaine charrette, ces escaliers. Ah non, alors là, au secours, heureusement que je n'y étais pas. Vraiment, j'ai trouvé ça épouvantable.
Moi, c'est en voyant.
Mais c'est un texte formidable parce qu'il est, je trouve qu'il est à la fois d'une méchanceté.
Alors, est-ce que c'est la traduction
Oui, parce que maintenant, il y a la traduction de Myriam Tannant.
Qui est quand même plus subtile.
Qui a beaucoup subtil. Plus
le Françon. Celle de Marceau n'est pas jeune-jeune. Hein,
non, oui, celle de Marceau n'est pas jeune-jeune et elle tire à la caricature. Oui. C'était, il l'a faite à un moment où Goldoni n'était pas redécouvert en France comme il l'a été.
Vincent.
Moi, j'avais pas un mauvais souvenir du spectacle, mais en voyant le film, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça braille.
Ah oui, en plus, ça braille.
Du début à la fin, je trouve ça insupportable.
Cela dit, le film vieillit un peu la pièce qu'on avait vue. Hein. Je trouve que.
Oui, je suis d'accord. Oui.
J'avais un meilleur souvenir du spectacle. Je trouve ça dommage qu'ils ne leur demandent finalement qu'une seule couleur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Jean-Louis Benoît parce qu'il fait un théâtre populaire assez jovial. C'est quelqu'un qui sait faire rire. Il a un clown en lui qu'il sait transmettre à ses comédiens et donc aux spectateurs.
Il a un peu un côté héritier de Planchon.
Oui, et puis un trait à la Daumier aussi. Ça, c'est toujours très agréable.
Il est un bon metteur en scène quand même.
Oui, mais là, il ne veut que faire rire. Après, de Goldoni, les Russes qu'il a montés à la Comédie française.
Ce qui est dommage, c'est qu'il
ne veut que faire rire. Il n'a plus que sur ses cordes. C'est pas du tout la même pièce.
Il y a une seule couleur, quoi. Voilà, tout est dit. Il cherche le comique, il cherche le clown, mais j'aimerais un peu de mélancolie, en tout cas moi mais comme spectateur, voir un Goldoni un peu plus nuancé.
Mélancolie vénitienne.
Même la fin, la scène des adieux, il règle ça en deux temps, trois mouvements. Il n'a pas envie de se préoccuper de ces couleurs-là. Lui, ce qu'il aime, c'est le comique de la pièce. Et il s'arrête là. Je trouve qu'on est un peu frustré d'autres choses, d'autres couleurs de l'auteur. Voilà.
Armel.
Oui, c'est vrai, tout a été dit. C'est une mise en scène un petit peu brutale, un petit peu...
Il passe en force, oui.
Alors, ça se voyait déjà un petit peu au Carme. Et là, évidemment, avec le rapprochement de l'image, ça se voit encore plus. Gilles vient de citer les rustres. Pour les Russes, il avait trouvé cette mélancolie vénitienne de... Là, il la trouve pas, il la joue joyeusement, mais peut-être qu'il n'était pas prêt, comme ça arrive parfois à Avignon. Mais ça se laisse voir agréablement quand même, parce que c'est moi, merveilleux, les personnages sont merveilleux.
C'est pas cette version de la villégiature qu'il faut voir, si on peut choisir un...
Oui, mais est-ce qu'elle existe, celle de Françon, par exemple?
Ah non, c'est trop tôt. Non,
celle
c'est
de Schreller, sûrement.
Schreller, je crois qu'elle est disponible. Et moi, j'ai fait l'expérience, au moment où Françon montait le spectacle au français, j'ai fait l'expérience de relire, ouais. De lire plutôt, dans une nouvelle traduction, j'ai oublié son nom, de la trilogie, et ça se lit merveilleusement.
Oui, c'est
ça
Myriam Tannant.
Comme un roman, ce qui n'est pas toujours le cas de Myriam Tannant, absolument. Ce qui n'est pas toujours le cas des pièces de théâtre. Donc ça, c'est la trilogie de la villégiature, et malgré ce que vous venez de dire, ça se trouve quand même chez Arte Vidéo. En 2011... Là, Vincent venait d'avoir 8 ans. En 2011, donc, Juliette...
Les sandwichs d'Armel.
Absolument. Juliette Binoche faisait son entrée au Festival d'Avignon dans une robe en lamé doré, moulante. Moi, j'ai un souvenir visuel.
Vous avez beaucoup regardé.
Pourquoi?
Elle n'était pas si moulante que ça.
Ah si,
si. Mais c'est-à-dire,
elle était décolletée.
Elle était épanouie, Juliette.
Elle pas bien.
Laissez-moi mes souvenirs, Fabienne.
Elle a choisi.
Et une version très modernisée de Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène au gymnase du lycée Aubanel, c'était par Frédéric Fisbach. Et là, c'est disponible alors en DVD à la Compagnie des Indes et en VOD sur Vimeo, qu'on a beaucoup d'ailleurs cité et exploité, ouais, Vimeo.
C'est bien Vimeo.
Depuis qu'on fait nos masques et la plume théâtre virtuel, si j'ose dire. Une pièce écrite à la fin du 19e siècle qui fit scandale à sa création. Une tragédie naturaliste, disait Strindberg, sur la lutte des classes et des sexes où s'aiment et s'affrontent, lors notamment de la nuit de la Saint-Jean, l'aristocratique Julie, donc c'est Juliette Binoche, et le valet de son père, Jean-Nicolas Bouchot, qui le jouait très valet, hein, et parfois il en ajoutait un petit peu dans le côté rustre, un huis clos que Fisbach avait enfermé davantage encore dans une cage en verre rectangulaire, derrière laquelle se profilait ce qui me semble être une boîte de nuit, mais c'est peut-être autre chose. Enfin, il y avait une boule à facettes. C'était.
On voit que tu ne sors pas beaucoup.
C'était la fête de la Saint-Jean version.
Voilà, c'était dans la fête de la Saint-Jean version dancing. Je ne l'ai pas revue, ni en DVD ni en VOD, mais en revanche, j'en ai un souvenir assez clair. Fabienne.
Bien, moi, je l'ai revue avec beaucoup de plaisir. Je ne crois pas avoir été si enthousiaste que ça à la création, mais là encore, est-ce la magie de la réalisation de Nicolas Klotz?
J'ai trouvé un papier de vous dans Télérama à l'époque qui était très élogieux.
Ah bon, eh ben voilà, ben je reste élogieuse parce que, j'avais un
c'est
peu
Nicolas
peur.
Klotz,
en revanche,
c'est
Nicolas Klotz,
c'est un bon réalisateur.
Il y avait des papiers très,
bon
très, très durs.
Ah oui, je devais être une des rares à être élogieuse.
Dans Le Monde, qui était très sévère, de Brigitte Salino.
Oui, mais elle descendait complètement la pièce en disant que Mademoiselle Julie était une pièce démodée, injouable, une mauvaise pièce. Moi, je trouve que c'est une pièce magnifique qui pose les enjeux des femmes dès 1888, qui est peut-être un peu psychologique, hein, mais on sait que Strindberg aimait se approfondir les méandres du cerveau humain. Et là, en ce qui concerne l'éducation de cette Mademoiselle Julie, qui est terrible, avec une mère qui voudrait l'initier au combat des femmes, un père absent, enfin bref, je ne vais pas raconter la pièce. Mais je trouve que Juliette Binoche, et Dieu sait que Juliette Binoche, parfois, je suis pas toujours séduite par ce qu'elle avait fait, notamment dans La Mouette de Konchalovsky à l'Odéon, dit à peu près 10 ans avant. Elle n'avait pas l'âge du rôle, hein, visiblement. Mademoiselle Julie, elle est beaucoup plus jeune. Juliette Binoche est magnifique. Je trouve que dans toutes les incertitudes de cette femme qui se cherche, qui ne sait pas ce qu'elle désire, qui est amoureuse, mais qui se déteste elle-même, qui n'arrive pas à se trouver, qui n'arrive tout simplement pas à vivre, tellement encombrée par son passé et avec son visage impassible, où le moindre frémissement de son âme surgit d'un battement de cils ou d'un petit bout de lèvres, je l'ai trouvée exceptionnelle et elle m'a fait frissonner et comprendre beaucoup plus que je ne l'avais fait, et Dieu sait qu'on la voit, Mademoiselle Julie, c'est une pièce qui est sans arrêt jouée, le désarroi...
On l'a vu encore à l'atelier,
Exactement, et très bien joué aussi, avec Anna Mouglalis. Moi, j'avais beaucoup aimé Anna Mouglalis.
Mais en revanche, j'ai un souvenir d'une modernisation de la pièce un peu inutile. Je ne voyais pas l'intérêt de...
C'est un peu inutile.
C'est totalement inutile.
Mais en tout cas, elle est admirable.
Il y a une dame qui dit, c'est Mademoiselle Julie version Ikea.
Gilles.
Oui, moi j'avais un mauvais souvenir de ce spectacle. Je trouve la mise en scène de Fischbach très souvent aberrante. Oui, c'est ces danseurs de rock qui restent sur la scène pendant la moitié du spectacle.
Oh,
mais si, ils sont là tout le temps, silhouette, tout le temps. Il y a une figuration énorme qui cache un peu la pièce.
Si, il a raison.
Et alors, en revanche, autant j'avais passé une mauvaise soirée à Avignon, enfin, dans mon souvenir, parce que c'est vrai, Fabienne nous le prouve, on peut avoir oublié ses articles et avoir écrit qu'on aimait un spectacle et en fait en garder un mauvais souvenir, parce que tout d'un coup, dans la mémoire, les côtés négatifs, ça a pris de l'importance. En revanche, le DVD de Klotz,
Nicolas Klotz,
est plein de qualités cinématographiques. Alors, en plus, moi, je suis pas du tout comme de l'avis de Jérôme sur Nicolas Bouchot. Je trouve qu'il a rien d'un fruste. Enfin, on dirait un grand seigneur.
Oui, moi donc, aussi. Je trouve que c'est un aristocrate.
Donc, on ne croit pas du tout.
Ses manières sont exagérément rustres.
Ouais, je trouve qu'il essaye, mais il n'y arrive pas. Donc, on dirait plutôt un très grand bourgeois, un aristocrate même. Et donc, ça décale complètement la pièce. Il y a un vrai problème. Sauf que c'est un acteur prodigieux. Sauf que Binoche est aussi une très grande actrice. Et alors, on a l'impression que Nicolas Klotz arrive à percer comme ça le brouillard que fabrique Fischbach, c'est-à-dire ces danses rock inutiles, et va chercher comme ça l'intimité entre les deux personnages. Et sur la fin, le film est vraiment très beau, très émouvant, avec deux acteurs d'une grande finesse. Donc ça ressuscite un spectacle qui n'était pas réussi.
Armel.
Personne ne cite la cuisinière.
Oui. Ah oui.
Bénédicte Cerruti, qui était elle aussi extraordinaire. Et qui joue, et là on le voit aussi, on la voit moins que les autres évidemment.
Et qui est un rôle important dans la pièce.
Oui, mais moi j'avais aimé ce spectacle. Je me souviens qu'on s'était beaucoup disputé.
Oui.
Les garçons s'étaient moqués de la robe de Juliette
au
Binoche,
masque,
pas
au
vous,
masque, au
mais
masque.
Oui, mes camarades.
C'est encore Nerson.
Ironisaient. Et moi je l'avais défendu ce spectacle et je me suis mieux rendu compte.
Les comédiens avaient choisi leur tenue.
Ouais. Fabienne l'a très bien exprimé, c'est-à-dire qu'on voit tous les détails du jeu de Juliette Binoche, du jeu de Nicolas Bouchot, du jeu de Bénédicte Cerruti. Et c'est très émouvant, très frappant. Et on voit la modernité extraordinaire de cette pièce qu'on a vue depuis 10 fois, toujours différente et toujours forte.
Vincent.
Moi, je suis pas d'accord. J'ai été agacé dès le début, justement, par la danse, non pas rock, mais électro.
Bravo. On voit le jeune homme moderne.
On en est à l'électro, ouais. Monsieur Costaz. Par cette volonté d'être contemporain, d'être branché. C'est branchouille, comme on dit aujourd'hui. J'avais l'impression d'être dans mon quartier à Oberkamp.
Mais c'est humain d'actualiser une pièce pour la rendre plus accessible.
Moi, ça ne me dérange pas que ce soit actualisé, mais appuyer à ce point sur « Regardez, nous, on fait quelque chose d'aujourd'hui qui va parler au public. »
C'est la Saint-Jean, c'est la fête de la musique.
On fait dansoter d'une manière interminable. Je rejoins Gilles des figurants. Et puis, toute la lumière est mis sur la star, c'est-à-dire que ça a été fait autour de Juliette Binoche. Il n'existe pas Nicolas Bouchot, qui est un acteur formidable.
Il fait ce qu'il peut. Il n'existe pas parce qu'il n'est pas très bon.
C'est un pantin à côté, il ne peut rien faire puisque seul compte Juliette Binoche. La cuisinière, qui est une merveilleuse actrice, n'existe pas.
Pas du tout.
Et si le trio n'existe pas, le valet,
elle existe seule parce qu'elle est magnifique, elle éclipse tous les autres, c'est tout. Les autres, ils sont.
La pièce n'a pas lieu d'être s'il n'y a que Mademoiselle Julie. Donc pour moi, c'est un ratage et c'est vrai qu'à l'époque, on s'était beaucoup étripé sur ce spectacle avec une trop grande branchitude pour être ému par ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas d'émotion du tout.
C'est Mademoiselle Julie de Strindberg avec, je crois, vous l'avez compris, avec Juliette Binoche, DVD de la Compagnie des Indes, VOD sur Vimeo. Vous écoutez bien le Masque et la Plume, un Masque et la Plume consacré aujourd'hui au théâtre que nous aimons, à Avignon, que nous regrettons et au théâtre que nous allons évidemment tous retrouver, j'espère, dans des salles archi pleines à la rentrée. Inoubliable souvenir pour moi, mais je pense pour vous aussi, que celui en 2015, là, Vincent atteignait l'âge de raison, de Richard III de Shakespeare, mis en scène par le patron de la Schaubühne, Thomas Ostermeyer, c'était à l'Opéra d'Avignon. Un été très très chaud, je m'en souviens, avec Lars Eidinger dans le rôle titre. Captation disponible chez Arte Vidéo et encore sur Vimeo. Une version à la fois explosive, la rock, on peut le dire,
oui.
Gilles, et même parfois grand guignol de cette tragédie dont le héros noir de corps et de cœur est un Machiavel anglais doublé d'un tueur en série. Inoubliable, oui, la manière dont Ostermeyer se saisissait de cette pièce, la rajeunissait, la violentait dans un décor de métal que je ne pourrais même pas décrire, qui faisait hurler la batterie de Thomas Witt, qui affublait ce Richard III d'un, totalement destroy d'ailleurs, d'un casque en cuir, mais qui lui conservait Merci à Stermeyer. Sa fameuse phrase qui est, vous le savez, ma devise, mon royaume pour un cheval. Vincent.
Ah, quel beau souvenir.
C'est un beau souvenir.
Ah là là.
Enfin, un souvenir choc en même temps, hein.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on aime Avignon quand il nous présente des choses comme ça? Très choc, oui, effectivement. J'ai pas souvent peur au théâtre et là, j'avais peur. J'avais peur pour les personnages, j'avais même peur pour lui, parce qu'il est finalement assez attachant comme figure du mal. On se met à aimer le mauvais. C'est quand même fou ce que réussit Ostermeyer et son immense comédien, hein, Lars Eidinger, je prononce mal l'allemand.
Lars Eidinger.
Fabienne, toi qui...
Lars Eidinger.
Lars Eidinger. Il a quelque chose de monstrueux, mais il est aussi du côté de l'enfance. On croirait un enfant qui fait des choses vilaines. Et on est à deux doigts de le pardonner par moment. Il est là, les autres sont habillés en costume contemporain, tenue de soirée. Et lui, il a un pauvre t-shirt, ou il est en slip, ou il est tout nu. Comme un sale gosse, quoi, à qui on dit « il est l'heure de dîner ». Il ose tout, Ostermeyer, il se permet tout.
Mais le dispositif scénique était hallucinant.
Hein. Oui. On frissonnait de bout en bout, en prenant aussi un peu de plaisir, parce qu'on prend du plaisir quand on frissonne.
Oui, parce que c'est en hauteur, en plus. Ouais, ouais.
Je pense que c'est un des plus grands spectacles d'Ostermeyer qu'on ait pu voir. Il y avait Eda Gabler aussi qui m'avait beaucoup marqué à Avignon. Mais
Hamlet, toujours avec Lars Eidinger.
Oui, oui, il était là déjà, lui.
Et oui. Armel. Oui.
Il y a au cœur de tout cela cet acteur absolument exceptionnel.
Qui est partout.
Qui commence à faire... On redit son nom, Lars Eidinger. Oui, oui.
Beaucoup de cinéma maintenant, qui a 44, 45 ans, qui est hallucinant. Et lui, c'est un Berlin. Berlinois pur jus, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a appris le théâtre là-bas, il avait qu'une idée, c'est rentré à la Schaubühne et il a eu beaucoup de rôles complémentaires au début, puis maintenant tous les grands rôles, il est hallucinant.
Une présence de folie.
Parce ouais. que c'est vrai ce que dit Vincent, c'est que on ne peut que l'aimer en même temps. Il nous terrorise, on a peur, et on ne peut que l'aimer. Mais bon, il y a eu un autre grand Richard III, quelques années auparavant.
Il y en a eu plein. Celui... Moi, je me souviens de Robert Hirsch.
Ariel Garcia Valdez.
Oui.
Robert Hirsch, qui était formidable en Richard III français.
Et puis après, il y a eu Garcia Valdez, dans les années 80, une mise en scène de Lavaudan qui avait marqué beaucoup.
Marcel Difonzobo aussi a été un...
Oui.
un...
Mais là, tout d'un coup, il renouvelle. C'est là qu'il est fort quand même, Ostermeyer, c'est qu'à chaque fois, il se renouvelle et il renouvelle l'œuvre qu'on voit. Parce que là, il a un peu coupé, il a un peu été à la hache sur certaines parties de la pièce, mais tout est restitué. Et alors, ce qui est très beau, c'est que plus ça avance, plus on va vers l'anglais. Et mon royaume pour un cheval, il le dit en anglais à la fin, comme c'est un magnifique. Pauvre enfant.
Mon seul regret, c'est que ça a été fait à l'époque dans cette salle très belle, mais fermée. D'Avignon, sur la place de l'Horloge, à l'Opéra, alors que ça aurait mérité,
la
à mon
d'honneur.
Avis, la cour d'honneur.
Ouais.
Fabienne.
Ah oui, moi, c'est un magnifique spectacle que j'ai revu. Encore une fois, je conseille, parce que là, encore une fois, la captation, elle est magnifique. C'est vrai
elle
que...
Elle est fidèle, en tout cas.
Oui, là, mais je voulais saluer aussi l'adaptation que Ostermeyer a fait avec son dramaturge attitré Mayenburg. Et là, ils arrivent à nous faire comprendre et aimer Richard III, la pièce qui a ses moments d'obscurité. Et moi, il y a des scènes que je n'avais jamais comprises avec cette intensité-là. Là. La fameuse scène avec Lady Anne.
Quand il a séduit.
Où Richard III parvient à séduire, à embrasser la femme dont il vient de tuer le mari. Et sur le cercueil du mari, ils ont une scène d'amour et de baiser. Il arrive à tout faire passer. La scène d'imprécation où sa mère, et on comprend tout, où sa mère, qui est jouée par un travesti, qui est jouée par un homme, la reine Marguerite, accuse Richard III d'être un avorton, un raté, un misérable, un minable, un méchant. Et là, tout à coup, ça prend une violence. Et on voit que c'est comme mes camarades l'ont dit, que c'est un sale gosse, parce que Ostermeyer joue avec un micro qui pend du plafond, dont s'empare parfois Richard III pour parler. Richard III
comme
qui
un rocker.
Hein. Comme un rocker. Mais c'est aussi le cordon ombilical, quoi, qu'il n'a jamais pu couper.
Exactement.
Et il est relié à cette mère qui ne l'aimait pas, malgré lui. Et la dimension de cet enfant sacrifié est bouleversante.
Gilles.
Oui, c'est rock, hein, c'est pas techno, c'est ça. Hein,
ouais. Électro.
Oui, d'ailleurs, il chante, d'ailleurs, l'acteur, un
c'est,
peu.
C'est pas la valse musette, si tu veux. C'est tout à fait beaucoup plus moderne.
Non, mais il est tellement fort que finalement, on voit que lui, presque. C'est un peu dommage. On voit que cet acteur tellement il est puissant.
Les autres sont formidables.
Oui, un peu moins. Dans d'autres, Richard III, les autres sont peut-être moins effacés. Non, j'ai trouvé la captation tout à fait digne du spectacle. Simplement, je trouve que ça écrase un peu la verticalité. Moi, il me semblait qu'on voyait beaucoup plus des choses se passer en hauteur. Il y avait une espèce de côté puits sans fond, comme ça.
Absolument.
Et là, on est quand même tout le
temps...
Ça
allait jusqu'au cintre, hein, dans
mon souvenir. Tandis que là, on est tout le temps au rez-de-chaussée, je trouve. Il y a un problème sur cette réalisation-là.
C'est Richard III, formidable spectacle de 2015, qui se donnait donc à l'Opéra du Grand Avignon. Et c'est donc le spectacle signé Thomas Ostermeier. On termine un peu rapidement avec La Danse du Diable, sous-titré Histoire comique et fantastique de Philippe Cobert. Ça, c'est disponible chez Malavida. Il avait 30 ans et des poussières. Il sortait, tout le monde le sait, du Théâtre du Soleil d'Aria Mnouchkine lorsqu'il a créé en 1981 au Cloître des Carmes, quand, une fois de plus, Bernard Fèvre-Darcier était le directeur du Festival d'Avignon. Ce premier spectacle autobiographique, grâce à son double Ferdinand Faure, il raconte son enfance, son adolescence provençale, où apparaissent en nombre porté, outre sa mère omniprésente, De Gaulle, Sartre, Malraux, Gaston Defer, mais aussi Johnny, Rangé Lanzac, ça c'est pour Gilles, ou Lucien Jeunesse, ça c'est pour Vincent. On peut même dire que La Danse du Diable annonce tout ce que va être Cobert sur scène et préfigure ce roman d'un acteur qui le résume et le rassemble. Gilles.
Mais moi, je ne l'avais pas vu, le spectacle.
Parce
que, oui, parce que j'ai commencé la critique de théâtre l'année d'après, donc je ne l'avais pas vu.
Vous auriez pu venir à Avignon comme étudiant.
Oui, mais j'étais venu voir des choses, mais pas ça. Et je me souviens que les gens parlaient énormément de ce spectacle. Et là, je le découvre grâce à vous, Jérôme, et je suis un peu déçu. C'est-à-dire que c'est vraiment une ébauche, quoi.
C'est le début.
C'est Philippe Cobert qui se cherche.
Donc, c'est beau déjà, ça.
Il n'y a pas beaucoup de fil conducteur, sinon
mal,
lui-même,
aussi.
Sinon Ferdinand.
Aussi.
Alors, évidemment, aussi. On découvre un acteur qui est extraordinaire, qui est éblouissant, qui en très peu de temps figure une personne, un conflit. Mais j'avoue que suivre ce spectacle dans sa longueur m'a paru un effort.
Armelle.
Oh, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il me semble au contraire qu'on voit déjà le fil qu'il va reprendre sans cesse.
C'est vrai que c'est un peu long.
Venir.
C'est un peu long. Quand même un peu long.
C'est très bavard, mais ça a toujours été bavard, Cobert. Hein.
Oui, mais quand on est devant l'écran, on le regarde. C'est
mais
pas
ça,
la même magie que
ça n'a pas été tourné en 81, hein. Ça a été tourné un petit
10 ans
après.
Mais ça date de 81 et c'était dans le festival IN. Hein.
Voilà, oui, alors que nous, on l'a vu à la condition des
choix. Après, c'est revenu à la télé.
Après, il est passé au off.
Ouais. Il est drôle parce que on sent tout ce que ça va devenir tout à l'heure lorsque nous parlions de Bartabas. Bartabas, il a quand même révolutionné spectacle après spectacle sa manière. Il a cherché, Philippe Cobert, il est sur le même fil. Alors, il développe, il devient de plus en plus fin dans l'écriture. Il a toujours travaillé de la même façon, c'est-à-dire qu'il improvise devant des copains ou
oui, mais
des amis.
Mais après, ça devient un texte,
voilà.
Puisqu'il les publie même ce...
Exactement. Mais il y a ce travail-là d'ébauche, et on sent là encore les scories, c'est peut-être ça qui a un petit peu déçu Gilles. Mais moi, je trouve que on sent déjà cette force, cette folie. Il est cinglé, bien le dire.
Et c'est une aventure.
Et jusqu'à
incroyable.
L'année dernière, il continuait
incroyable.
Une fois à se raconter,
et on ne se
à
lasse
se
pas,
résumer.
C'est ça qui est formidable.
Vincent.
Ah ben, c'est émouvant. Moi non plus, je n'avais pas vu la création, bien sûr. Et voir ce jeune peintre avec sa palette, au fond, qui va essayer des couleurs sur scène avec plus ou moins de succès. Effectivement, les scènes sont très longues et trop longues.
Oui.
Mais quelle scène, quoi. La mère qui regarde De Gaulle à télé tout en parlant à sa femme de ménage et en engueulant ses enfants. Tout ça par le même homme. C'est chose qu'on avait certainement jamais vu avant lui.
Il y a plein de références, à mon avis, incompréhensibles pour la jeune génération aujourd'hui.
Oui, c'est possible. Oui. Bon, De Gaulle, quand même.
Qui connaît Roger
Lanzac. Roger Lanzac.
Oui, Roger
quand
Lanzac.
Il imite Malraux, il est quand même...
Mais c'est un imitateur né. Et le voir essayer des choses, et puis le voir décider que sa vie, c'est un roman, et qu'il fera ça toute sa vie, c'est assez formidable. Il est unique, Cobert, dans son genre. Et ça m'a pas mal ému, moi, d'assister à la naissance.
C'était assez courageux de la part de Fèvre, d'Arcier, de l'inscrire à ses débuts dans le festival.
C'était un vrai pari.
C'était un vrai pari, hein. Et là-dessus, il ne s'était pas trompé. Ouais. C'était
Jérôme,
un bon patron.
Je voudrais citer quand même le réalisateur, parce que Bernard Dartigues, il a filmé les 20 spectacles de ce premier spectacle jusqu'à aujourd'hui.
On trouve d'ailleurs, on trouve
tout.
Il a filmé avec beaucoup d'intelligence
en DVD, en VOD.
Cobert.
Fabienne.
Oui, c'est émouvant. Moi, je pensais que c'était en 81. Donc, je voulais voir comment il était à cette époque-là quand on l'a découvert.
Mais la création était en 81.
À la création. Oui, mais là, c'était en 93.
Ça a été
ce qu'on a vu
un peu plus tard.
Et Parce qu'il invente l'autofiction théâtrale. L'autofiction en roman, c'est Dubrovski quelques années avant. Mais là, au théâtre, il ose se mettre en scène, se raconter à la première personne. On n'avait jamais vu ça. Un monologue qui allait durer pendant 35 ans, 30 heures de spectacle, où il passe son temps à déchiffrer, à revenir sur des moments de sa vie. Il invente vraiment un genre. Il se donne en pâture. Et ça, cette offrande de soi et de ses souvenirs et de sa mémoire, c'est totalement...
C'est grâce d'ailleurs à cette autofiction parlée qu'il a aussi réglé ses comptes affectueusement avec...
Avec Ariane Mouchkine.
Avec Ariane Mouchkine.
Avec qui il s'est disputé, puis réconcilié. Et donc le travail est assez éblouissant. Je trouve qu'il y a des moments, il y a des longueurs qu'il aurait sans doute dû couper. Moi, quand il avait repris, là, il y a peu de temps, il a repris ça à l'Athénée, j'avais trouvé que ça avait vieilli. Mais là, comme c'est... En 91, il est encore jeune et frais, et je trouve qu'il y a une émotion, il y a une spontanéité dans tout ce qu'il raconte. Ses imitations sont quand même à hurler de rire. Le concert de Johnny Hallyday.
Il est incroyable.
Voilà, Mauriac, ouais. Malraux, il est irrésistible.
Il y a plein de scènes qu'on a retrouvées.
Il raconte la France en même temps. Ouais, il raconte, exactement. Il nous raconte toute une époque.
Le Solex de la France et Johnny.
Que Vincent devrait regarder comme un cours d'histoire.
Et s'il les mettait à l'Union, c'est parce qu'il se rêvait Gérard Philippe. Il voulait être le nouveau Gérard.
Il était beau d'une certaine façon.
Colbert.
Le jeune Colbert.
Ça, je vous laisse vos jugements et vos comparaisons.
Il n'y a pas que la robe en lamé de Juliette Binoche, Jérôme Garcin.
Dans Molière, il est magnifique.
Je t'en prie, Vincent. Je t'en prie. Ouais. Donc, alors, on trouve La danse du diable chez Malavida de Philippe Courbet, et on trouve, pour ceux qui voudraient reprendre l'histoire incroyable de ce comédien qui aura finalement consacré sa vie et son œuvre à lui-même.
Il est joué souvent par des jeunes comédiens. Ouais. Il y a des compagnies qui montent.
C'est magnifique.
Des
textes de Courbet sont repris.
Oui, c'est spectacle. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je ne les ai pas vus. Mais il a donné envie à d'autres générations, justement.
Et sachez que vous trouvez évidemment aussi tous les textes, maintenant qu'il a plus ou moins rassemblé dans des livres sous le titre, justement, Le roman d'un acteur. On a tout à fait le temps maintenant de donner des conseils. Alors, évidemment, je le disais, on bataille pour faire aimer, continuer à faire aimer le théâtre et souhaiter qu'on y retourne. Bon, les salles sont plus ou moins ouvertes, mais bon, il n'y a plus de programmation. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à voir, DVD, VOD, à lire, mais en tout cas qui exprime notre passion du théâtre. On va commencer avec Fabienne.
Alors, il y a un DVD qui est très intéressant chez Vimeo, qui reprend un spectacle qu'avait fait Mathieu Bauer, le patron de Montreuil, autour de Chuck Corridor de Samuel Fuller.
Ah ouais, formidable spectacle.
C'était un très beau spectacle, musical aussi, où il s'imprégnait du film, il montrait le film, il essayait de l'actualiser aujourd'hui. C'était un jeu tout à fait bien fait sur un journaliste qui essaye de rentrer dans un hôpital psychiatrique. C'était très, très étonnant et vraiment le...
Mais je comprends pas, c'était une paraphrase du film, non.
C'était une inspiration
du
film, il reprenait le scénario.
C'était
assez compliqué, mais il arrivait à actualiser ce que raconte le film, en montrant des extraits du film, en le jouant aujourd'hui, et tout ça sur fond de musique rock, encore une fois, et c'est très réussi. Et puis je conseillerais les consultations poétiques qui ont lieu en vivant dans l'espace Cardin, à l'espace Cardin, dans les jardins de l'espace Cardin, tous les jours, jusqu'à fin août. Elles sont données, ces consultations poétiques, par des acteurs.
C'est quoi des consultations poétiques ?
Alors, je vais vous expliquer. Tous les demandeurs, les spectateurs demandeurs, peuvent s'inscrire sur le site du Théâtre de la Ville. À partir du moment où ils s'inscrivent, un acteur les appelle, leur demande comment ils ont vécu le confinement, comment ils vont, et leur conseille, selon ce que la personne dit de sa vie, un poème. Il leur dit un poème, il y a un temps de silence, il leur conseille d'apprendre le poème et de le dire à une personne aimée. Et de tous ces récits qu'ont fait les demandeurs spectateurs, Emmanuel de Marcimota tire matière à faire des spectacles qui sont redonnés tout au long de Veillée. Mais ce moment vécu avec un acteur autour d'un poème, c'est quelque chose
donc,
de tout à fait
bouleversant. Donc pour être clair pour nos auditeurs, il faut appeler le Théâtre de la Ville.
Voilà,
et prendre rendez-vous.
S'inscrire sur le site et à ce moment-là, vous pouvez aller dans les jardins de l'espace Cardin avoir une consultation poétique.
Ça, c'est original. Le conseil... Oui.
En même temps, il y aura des spectacles pendant jusqu'à la fin du mois de juillet, même du mois d'août.
Oui.
Des vrais spectacles.
Armel.
Alors, moi, un livre, parce que j'aime bien les livres aussi. Un livre de Peter Brook qui vient de sortir, qui s'appelle « À l'écoute ». Ce sont des réflexions sur la musique et sur le son. Alors, ça va un peu dans tous les sens. Il y a
une grave faute dans ce livre, c'est qu'on parle de la patte d'un cheval.
Ah,
alors ça, c'est Jean-Claude Carrière qui a traduit,
on va lui,
hein,
ce n'est pas
bien.
Possible.
Mais alors, il y a des informations qui vont dans tous les sens. Et il y a cette chose extraordinaire, il raconte comment il a raté sa mise en scène de l'opéra de Katsu dans les années 50. Mais la chanson de Macky est devenue une scie à la radio. Et qui adorait cette chanson? La reine d'Angleterre elle-même, Elisabeth. Et il paraît que tous les bals un peu chicos, diplomatiques ou aristocratiques qu'elle ouvrait avec Philippe, elle dansait sur la chanson de Macky.
La reine d'Angleterre qui ne dirait jamais une patte de cheval.
Elle jamais.
Hein, mais une jambe. Le conseil de Vincent.
Renseignez-vous sur ce qui peut se passer cet été dans vos théâtres. Je pense par exemple à Thomas Joly qui dirige depuis janvier le Quai d'Angers, le ouais. Centre dramatique national. Il propose
qui a une grosse proposition en ligne hein, de spectacles.
D'une part, ça, beaucoup de théâtres comme le TNB, le Théâtre national de Bretagne à Rennes, etc., proposent des choses. Et lui, avec des comédiens, va aller un petit peu partout dans les jardins, devant les fenêtres des petits vieux, dans les EHPAD, etc., dans des kiosques musicaux. Ils vont improviser, ils vont dire des textes du répertoire, des textes contemporains. Donc, renseignez-vous. Je pense que ça se passe pas simplement comme ça à Angers. Et puis, j'ai vu un spectacle que j'avais raté à l'époque, qui est un spectacle de David Lescaut, qui s'appelle La Commission centrale de l'enfance, qui dure une heure et demie maximum. Il se souvient de ces colonies qui avaient été créées pour les enfants de déportés juifs et communistes. Donc, il est allé là-bas avec son frère Mishka. Son père déjà fréquentait ces colonies de vacances. Et c'est très différent de Cobert, c'est-à-dire qu'il joue pas tous les personnages. Il va juste faire le récit avec une guitare tchécoslovaque des années 60 de ce qu'il a vécu, du désherbant qu'il fallait mettre dans les champs de tabac parce que ça c'était connaître la condition ouvrière, des champs communistes. C'est très émouvant.
Et ça se trouve où, ça
C'est sur YouTube, la Commission centrale de l'enfance.
J'aime beaucoup la manière dont tu dis YouTube.
Tu dis comment,
beaucoup,
toi
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Vincent. Vite, Gilles, un conseil.
Il se trouve qu'Avignon ne va pas être fermé, ne va pas être immobile, ne va pas être désert cet été. Oui, il y a des gens qui... D'abord, les conditions sanitaires ont évolué depuis les annulations. Donc, il y a des gens qui vont prendre le risque de
jouer.
Travailler certaines dispositions favorables au public.
Non,
et alors, il y aura certaines salles du Off qui vont ouvrir pas longtemps, 10 ou 15 jours. Et puis les grands metteurs en scène d'Avignon, Gérard Gélas, Julien Gélas, Serge Babouchia, Alain Timard, organisent dans le Palais des Papes, au cloître du Palais des Papes, une série d'événements qui sont tous des lectures. Et à la fin, c'est-à-dire du 16 au 23, le dernier jour, le 23 à 18h, qui va-t-on voir ? Philippe Cobert, qui va participer à la lecture de Aristophane Valetti, c'est-à-dire les adaptations d'Aristophane faites par Serge Valetti, qui sont très truculentes, très éblouissantes. Et donc, on aura ce grand moment de théâtre qui aura lieu à Avignon.
Oui, qui nous reste
le
23. Il nous reste pas beaucoup de jours avant de pouvoir y assister. Oui, Armelle.
Il faut quand même qu'on dise qu'on aura une petite semaine d'art en Avignon du 23 au 31 octobre.
Avec des créations.
Il vient de monter ça. Oui.
En octobre,
oui. Avec des spectacles qui étaient prévus déjà.
C'était le nom que avait donné Jean Villard.
Il reprend un clin d'œil. Donc ça sera, je pense, les vacances de la Toussaint.
Oui, 4 ou 5 créations.
Voilà.
Eh bien, merci pour tous ces conseils très variés que vous nous avez proposés. Merci Fabienne Pascoe, Armelle Elio, Vincent Josse, qu'on retrouve tout l'été sur notre chaîne. Et Gilles Costaz pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et aujourd'hui à la technique au théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie, il y avait Claire Levasseur, Laurent César, Pierre Créin, la réalisation, mise en scène, scénographie était signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parle de cinéma parce que Le Masque et la Plume, c'est tout l'été. Et je vous dis à samedi et dimanche prochain sur France Inter, évidemment.